Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus Pau, il est l'heure de votre second épisode de votre émission Autoradio. J'ai le plaisir de vous retrouver afin de discuter avec mon acolyte Erwan de l'actualité des marques et des sports automobiles. Bonjour Erwan.
Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est un plaisir d'être de retour à l'antenne. C'est parti pour l'actu des marques qui est bien remplie, j'espère, mon cher Simon.
Alors je t'avoue Erwan que pour mon plus grand plaisir, l'actualité des marques est bien remplie ces dernières semaines. Entre innovation technologique et nouveautés, je ne sais plus où donner de la tête. Et pour commencer, tu l'as sans doute entendu, nous connaissons enfin la voiture de l'année 2023. Élue par un panel d'une soixantaine de journalistes européens, il s'agit cette année de la Jeep Avengers, le nouveau petit SUV 100% électrique de la marque américaine qui succède à la Kia EV6. Alors cette année encore, ce n'est pas une voiture française qui repart avec le trophée, mais parmi les 7 finalistes se trouvaient malgré tout deux modèles français, la Peugeot 408 et le Renault Austral.
Les voitures françaises ne peuvent pas gagner tous les ans non plus. Elles ont raflé plusieurs fois le titre durant ces 10 dernières années, et notamment en 2014 avec la 308, 2017 avec l'Alpine ou encore 2020 avec la 208. Et pour la petite anecdote, j'avais été à la présentation officielle du Kia EV6 à Tarbes.
Ah ben ça devait être fort sympathique. Mais je vais profiter donc de cette nomination du Jeep Avenger pour en parler un petit peu. Alors concrètement, la Jeep Avenger, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un petit SUV 100% électrique de la marque américaine Jeep qui a été présenté au dernier mondial de l'auto à Paris. Elle est annoncée avec une autonomie de plus de 400 km et sera le plus petit modèle de la marque américaine. Plus court qu'un Renegade, avec ses 4,24 m. Elle est exclusivement destinée au marché européen, et c'est pour ça que l'Avenger sera produite dans l'usine polonaise de Tychy, où Stellantis produit actuellement la Fiat 500 thermique. Alors clairement, cette Jeep, elle n'aura de Jeep que son logo, car l'Avenger repose sur une plateforme de 208 et de 2008, tous deux déjà proposés en version 100% électrique.
Ça c'est sûr qu'on en est loin du Jeep Wrangler 100% américain.
Ça c'est sûr. J'ai parlé donc en début d'émission de nouveautés. Eh bien figure-toi Erwan que Mazda a annoncé le retour dans sa gamme du moteur rotatif. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est que le moteur rotatif ? Eh bien le moteur rotatif c'est un moteur à explosion, un petit peu différent des moteurs traditionnels dont le mouvement des pistons est alternatif. Un petit peu différent des moteurs que nous retrouvons sur la majorité de nos véhicules aujourd'hui. Et pour résumer en deux mots, ce moteur il est un petit peu différent parce qu'il est composé d'un piston qui est triangulaire que l'on appelle le rotor. Ce rotor il est composé de 3 arêtes qui permet de distinguer 3 chambres dans le bloc comprenant le rotor. Ce bloc s'appelle stator et en faisant tourner le rotor dans le stator, on réalise les 4 temps du cycle de combustion, c'est-à-dire admission, compression, détente et échappement. C'est lui aussi un moteur à explosion, mais qui présente une architecture un peu différente de d'habitude. Ce moteur existe depuis longtemps, ce n'est pas une nouveauté, puisque chez Mazda, il était notamment monté sur la RX-8, mais aussi chez Citroën, qui avait investi énormément d'argent dans cette nouvelle technologie dans les années 60-70. Alors sur le papier, ce moteur, il est génial. Son rendement est extraordinaire, mais il a finalement disparu de la circulation, notamment car il consommait énormément. La RX-8 peut consommer jusqu'à 35 litres au 100.
Mais comment ça se fait que Mazda veut relancer ce type de moteur ?
Alors c'est vrai que, de but en blanc, ça peut paraître étonnant, surtout quand on voit le prix du litre de carburant en ce moment. Mais en fait, ce moteur va être monté sur un SUV, le MX-30, hybride rechargeable. Et il ne s'agira que d'un moteur d'appoint, c'est-à-dire un moteur qui va permettre au véhicule de prolonger son autonomie sur la route. C'est un petit peu la même idée que la première génération de BMW i3 qui était équipée d'un moteur thermique qui permettait de prolonger l'autonomie de la batterie électrique. Mazda affirme que cette nouvelle génération de moteurs à piston rotatif est largement améliorée avec un certain nombre de modifications. Je suis donc impatient de voir ça. Et je vais conclure cette chronique dédiée aux marques en teasant un petit peu le programme des prochains épisodes d'Autoradio, car le calendrier des nouveautés est très chargé cette année. Nous allons avoir en 2023 beaucoup de restylages de véhicules, mais aussi l'arrivée carrément de nouveaux modèles chez un bon nombre de constructeurs. Alors rendez-vous le mois prochain pour commencer à en discuter, car tout de suite, il est temps de parler des sports.
Alors étant donné que c'est les vacances en ce moment dans le sport auto, j'ai un peu galéré à trouver un sujet pour ma chronique sport auto, et pour ceux qui pensaient que j'allais parler du Dakar, eh bien non, je parlerai pas du Dakar, qui a été, pour moi, un énorme fiasco, même si je tenais quand même à féliciter Sébastien Loeb pour ses 6 victoires d'affilée. Il montre, à nouveau, qu'il est le patron. Donc vu que je n'avais pas parlé du Dakar, j'étais légèrement en manque de sujet. Et à ce moment-là, que vois-je ? Les dates du rallye du Monte Carlo. Et j'avais enfin trouvé mon sujet. Donc aujourd'hui, mon cher Simon, direction le Monte Carlo.
Bon, alors j'avoue que j'aurais apprécié entendre un peu parler du Dakar parce que c'est comme le rallye de Monte Carlo, une véritable institution dans le monde de l'automobile. Mais soit, allons-y, je te suis, il y a beaucoup à dire sur ce rallye de Monte Carlo. Et d'ailleurs, on en est à la combientième édition cette année ?
Cette année a eu lieu la 91e édition. Mais je n'ai pas envie de parler de cette édition 2023, j'ai plutôt envie de parler du Monte Carlo en général. Donc nous allons retracer l'histoire du Monte Carlo ensemble. Dès 1906, une épreuve de régularité est mise sur pied lors d'un trajet Paris-Monte-Carlo, aller-retour entre le 25 novembre et le 5 décembre, pour les nouveaux modèles du Salon de Paris. La création du Monte-Carlo remonte à 1911 par deux monégasques, René Léon et Anthony Nogues, qui créera 18 ans plus tard, en 1929, le Grand Prix de Monaco. Au début, ce rallye automobile n'est pas une épreuve sportive, il sert juste à attirer les populations européennes fortunées dans la ville de Monaco, et pour répondre aussi aux événements sportifs organisés par la ville rivale, Nice. Et donc, dans les années 30, le rallye de Monte Carlo rivalise avec des épreuves sportives telles que le Paris-Nice, qui lui est une épreuve de cyclisme. Le rallye du Monte Carlo, durant cette époque, se courait ainsi. Chaque véhicule engagé part alors avec son équipage par la route de la ville où il était engagé. Il effectue le parcours de regroupement reliant cette ville à Monte Carlo en suivant un itinéraire précis avec certaines contraintes. A l'époque, traverser l'Europe en plein hiver est un exploit. Arrivé à destination, les vainqueurs sont l'équipage ayant réussi à rallier Monaco en respectant une moyenne horaire imposée par les organisateurs. Mais la présentation du véhicule après autant de kilomètres sur des routes difficilement praticables est tout aussi importante pour les constructeurs de l'époque. Une autre particularité du rallye Monte Carlo sera pendant longtemps son parcours de concentration. Les villes de départ étant réparties aux quatre coins de l'Europe, les équipages se rejoignent en un point unique afin de rallier par un parcours alors commun Monaco. Cette caractéristique a donné jusqu'au milieu des années 90 sa réputation au rallye et en a fixé le déroulement. Avec les progrès réalisés sur les véhicules ainsi que l'amélioration du réseau routier européen, l'Automobile Club de Monaco essaye alors de donner un visage plus sportif à son épreuve, afin de compliquer la tâche aux participants, et surtout que le rallye ne soit pas une promenade de santé. Ainsi, au fil des années, le règlement est sans cesse modifié. On voit apparaître une épreuve de maniabilité, puis une épreuve se déroulant sur quelques tours autour du circuit de Formule 1, afin de départager les équipages. Mais bientôt apparaîtra une épreuve qui va faire encore la réputation du rallye. Le circuit de montagne dans le Haut-Pays niçois. Le Monte Carlo n'a pas encore pris le visage sportif qu'on lui connaît de nos jours. En effet, les épreuves servent à départager les équipages, se basant encore sur la régularité et non sur la vitesse pure. Son arrivée en rallye se fera par des championnats européens mineurs, puis en 1973, lorsque le WRC fut créé, le rallye Monte Carlo en fut directement la première épreuve au calendrier et verra passer sur ses routes toutes les catégories mythiques du rallye, telles que le Groupe B par exemple. Évidemment aussi, toutes les voitures légendaires du rallye passeront par le Monte Carlo, comme par exemple la Lancia Stratos, la Lancia Delta, la Peugeot 205 Turbo 16 et l'Audi Quattro. Mais il ne faut pas oublier aussi les pilotes mythiques du Monte Carlo, comme Harry Vatanen, qui l'a remporté en 1985 avec sa Peugeot 205 Turbo 16 et avec un certain Jean Todt comme directeur d'écurie. Mais aussi Didier Auriol l'a remporté trois fois, lui, en 90, 92 et 93, dont deux fois avec Lancia. Carlos Sainz Senior l'a remporté trois fois aussi. Mais les deux pilotes les plus titrés au Monte Carlo sont évidemment nos deux Sébastien, Sébastien Loeb et Sébastien Ogier, qui l'ont remporté 8 et 9 fois chacun. Loeb, lui, a remporté l'édition 2022 et Sébastien Ogier a remporté, il y a de cela quelques jours, l'édition 2023. L'édition 2022 a quand même été très serrée, avec seulement 10,5 secondes d'avance entre les deux Sébastien. L'histoire du Monte Carlo s'est construite grâce aux constructeurs et aux pilotes de légende qui ont participé et remporté cette épreuve, mais aussi par son parcours. On ne peut pas parler du Monte Carlo sans parler du col du Turini, qui fait l'objet ces dernières années d'une épreuve de nuit qui, selon moi, est la plus belle du championnat du monde des rallyes. Alors Simon, l'histoire du Monte Carlo est quand même extraordinaire, non ?
Bah, c'est un véritable mythe, une grande partie d'histoire. Et je te remercie beaucoup Erwan pour ce petit tour d'actu des sports et te propose de terminer cette émission par la traditionnelle petite anecdote. Alors cette semaine, je me suis intéressé aux jeunes conducteurs, c'est-à-dire à la tranche des 18-24 ans, et je me suis posé la question, mais quel est le modèle de voiture le plus utilisé par ces automobilistes, pardon. Alors Erwan, est-ce que tu as un petit pronostic ?
Alors là, j'en sais rien du tout, je te laisse me le dire.
Alors, d'après les assureurs, l'année dernière, la voiture la plus utilisée par les jeunes était la Clio 2. Bon alors je t'avoue que c'est pas franchement étonnant car c'est une voiture bon marché qui ne coûte pas trop cher ni à l'achat, ni en assurance, ni en entretien. Alors, je me doute bien que c'est pas forcément le véhicule de rêve de tous les étudiants, mais par manque de moyens, eh bien, c'est bien souvent celui qui s'impose. On retrouve aussi dans le classement, sans grande surprise encore, la Clio, la Twingo 3, la 206, la 207, bref, tous les véhicules que l'on retrouve en grand nombre sur le parking des universités.
Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin.
Et oui, Autoradio, c'est déjà terminé, mais vous pouvez bien évidemment retrouver cette émission et toutes les précédentes sur le site internet de Radio Campus Pau, mais aussi en podcast sur les plateformes Spotify et Deezer. À bientôt !